Bonjour et bienvenue sur l'Octet Vert, le podcast qui parle de climat, de numérique et qui file la pêche.
Alors, est-ce que Gaël nous entend? C'est même pas sûr.
C'est une catastrophe.
Non, il n'entend plus
rien.
Moi,
je l'ai vu couper tout à l'heure et puis ouais. Il est revenu. C'est bien, ça va faire du montage, ça.
C'est un épisode un peu spécial aujourd'hui avec Perrine Tanguy de Déclic Responsable et Gaël Duez de Green.io. Alors, ben voilà, c'est pas les questions habituelles de l'Octet Vert, c'est une conversation entre trois podcasteurs francophones. Est-ce que vous voulez vous présenter tous les deux, Gaël ?
Eh bien, salut Gaël. Moi, j'ai créé le podcast Green.io il y a un an et demi maintenant. C'est un podcast en anglais sur le numérique responsable qui a pour but de faire dialoguer des acteurs à travers les pays, à travers les métiers aussi, sur les sujets du numérique responsable avec un gros focus environnemental. Bien sûr, il y a beaucoup de Français qui interviennent parce qu'on sait que le pays est assez leader sur ce sujet, mais j'ai aussi un vrai plaisir à aller chercher des participantes et des participants aux quatre coins du monde, avec la spécificité depuis quelques mois maintenant d'avoir deux invités, d'abord pour respecter tant que faire se peut la parité, et aussi pour avoir à chaque fois sur un même sujet un éclairage divers provenant de régions du monde différentes. Alors parfois c'est juste deux pays de l'Union européenne, mais parfois ça fait des échanges intercontinentaux et c'est chouette aussi, voilà. J'en suis à une vingtaine d'épisodes maintenant et une trentaine d'invités, parce que le fait d'en inviter deux à chaque fois, ça fait qu'il y en a pas mal et ça me permet de rencontrer des gens absolument fascinants.
Excellent. Et ça, t'es un peu notre ambassadeur français en dehors de la francophonie, quoi. Et ça, c'est très cool.
Mais oui, mais tout à fait. Et d'ailleurs, j'ai écrit au Quai d'Orsay parce que je voulais impérativement le chapeau tricorne et les petites broderies, etc. Et on m'a répondu qu'a priori, il fallait soi-disant avoir vraiment un poste d'ambassadeur. Donc si jamais vous en avez un qui traîne dans vos armoires ou si jamais des auditeurs et des auditrices en ont un, voilà, je serais ravi d'avoir un beau petit tricorne. Voilà.
Ah ouais, c'est ça. Bon, et Perrine, vas-y, présente-toi quand même. On aurait dû commencer par toi en plus, mais bon.
Non, mais non, il n'y a pas de problème. Bah, Perrine Tanguy, donc moi j'ai créé le podcast Déclic Responsable pour présenter des initiatives qui viennent réduire, voire même contrer les impacts du numérique, qu'ils soient environnementaux, sociaux, éthiques ou même sanitaires. Une ambiance assez positive et enthousiaste, hein, parce qu'on parle pas d'un sujet qui est toujours très fun. Et voilà, le premier épisode est sorti en février 2021, et depuis ça continue, et depuis le début de l'année, là, je suis accompagnée par Tiffaine Brigand, qui a 10 ans de moins que moi, et qui, elle, est un peu plus au fait des nouvelles tendances, Web3, Métaverse, etc. Là où je commence à être un peu larguée, je commence à être un peu boumeuse là-dessus. Donc c'est toujours intéressant, puis c'est intéressant de confronter un peu nos idées. Voilà, donc l'aventure du podcast continue.
Excellent.
Et toi, Tristan ?
J'ai du mal à imaginer que quelqu'un puisse avoir 10 ans de moins que toi, mais bon, c'est parler dans un micro. Une voix tellement jeune, c'est génial. Donc, moi, je suis le boomer de service, Tristan Lito, 56 ans, qui fait l'Octet Vert. Voilà, un podcast sur le climat, le numérique et la bonne humeur, comme je le disais tout à l'heure, comme le sujet peut être facilement plombant. Et j'essaye de trouver des invités sympas. En fait, c'est là où ça me demande le plus de travail, ça, et éventuellement lire ou regarder ce qu'ils ont écrit, publié, et puis ben, essayer que ces gens que je choisis soient inspirants. Je ne sais pas combien d'épisodes j'ai fait, j'ai dû faire, je sais pas, 35 épisodes, c'est pas tant que ça finalement.
Bah, c'est déjà bien.
C'est déjà bien. Et il n'y a pas de publicité, enfin voilà, parce que je tiens à ce que ça reste comme ça.
Un podcast organique. Et comment tu en es arrivé là ?
À Fichtre, on commence par moi direct.
Bah oui, pourquoi pas. C'est le podcasteur podcasté. L'intervieweur interviewé.
Ah oui, j'ai déjà tendance à trop parler que prendre trois épisodes, mais alors si c'est à moi qu'on pose les questions, comment je suis arrivé là? Écoute, en fait, je regardais l'autre jour, j'ai commencé à écrire sur l'environnement sur mon blog en 2003, donc il y a pile 20 ans. C'était en novembre 2003 où j'avais fait un premier billet qui parlait de Jean Jouzel et des rapports du GIEC. Et en 2004, j'ai un autre article que j'ai retrouvé où je parlais de Jean-Marc Jancovici et de la problématique énergie, pétrole, gaz carbonique, comme je disais à l'époque, qui a donné lieu à une rubrique environnement donc sur mon blog standblog.org. Et puis, j'avais tellement l'impression de pisser dans un violon et ou de prêcher dans le désert et que personne n'en avait rien à cirer. au fil des années, ça m'angoissait terriblement, et d'autant plus que les gens n'écoutaient pas, quoi. Donc, vraiment, ça ne rebondissait pas du tout. J'ai progressivement et pas forcément consciemment un peu délaissé la chose jusqu'à la démission de Nicolas Hulot août 2018, donc très prochainement 5 ans. Et là, je me dis, mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai été con d'imaginer que sous prétexte qu'on avait un ministre, a priori, qui se sentait vraiment concerné sur le sujet, et le connaissant, et médiatique, etc., et de se dire que ce ministre suffirait à faire le job, quoi. J'ai remesuré, enfin, ça a été une claque, en ce sens que j'ai mesuré à quel point j'étais dans le déni de la faiblesse des moyens par rapport à la hauteur du défi. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Alors à l'époque, j'allais voir mon patron et je lui ai dit, bah écoute, il faudrait qu'on en parle et tout. Et il m'a dit, ouais, c'est pas chier, machin. Et il a ajouté, ouais, de toute façon, tu vois bien, les avions, ils volent et c'est pas prêt de s'arrêter. Bon, quelques mois plus tard, c'était le Covid. On a bien vu que les avions, on arrivait à les arrêter quand on voulait, même quand on voulait pas d'ailleurs. Et puis, bah justement, j'ai profité du Covid pour me dire, mais qu'est-ce que je fais? Je me suis formé, j'ai fait les 20 heures de cours de Jean Covici à l'École des Mines, j'ai lu plein de trucs, bref. Et je me suis dit, mais si je veux me positionner, bah, je suis connu dans le numérique, je veux parler de changement climatique, du fait qu'il faut prendre le virage climatique, mais mon expertise, elle est autour du numérique. Et les gens m'attendent là, quoi. Donc, je me suis dit, on va voir ce qu'on peut faire au niveau du numérique. Et puis, bah, ça m'a amené à reprendre contact avec des gens que je connaissais déjà, genre Fred Bordage de greenit.fr, etc. Et puis, un copain m'a dit, ah, mais si tu veux te positionner là-dessus, tout ce qu'il faut que tu fasses, c'est écrire un bouquin. Et ça, je l'ai déjà fait sur la surveillance et la collecte de données personnelles. Et j'avais pas envie de remettre ça, un bouquin, d'autant que j'avais un projet de livre qui est toujours pas sorti et qui sortira peut-être jamais, d'une utopie sur le changement climatique. Donc plutôt de la science-fiction, donc de la fiction, pas facile. C'est pour ça que je suis toujours bloqué. Et donc me mettre un deuxième projet de livre, je le sentais pas. Puis comme j'avais fait un podcast, j'avais participé à un truc de Libération qui s'appelait 56 castes, qui passait sur la chaîne No Life, je me suis dit, bah en fait c'est pas con. Puis j'en ai parlé des copains journalistes et puis voilà, on en est arrivé à ce que je fasse l'octet vert. J'ai décidé d'inviter des gens, de profiter de ma bonne humeur naturelle, du fait que je suis capable de dire plein de conneries dans un micro. Et au lieu de camoufler ces conneries, tu vois, et ces bêtises et cet humour, j'ai décidé de l'embrasser, d'être moi-même et de dire, bon, allez, puisque je dis des conneries, eh ben, je vais les dire dans le micro. Donc c'est pour ça qu'il y a la bonne humeur dans l'octet vert.
Et qui file la pêche.
C'est l'idée, parce que bon, sinon, en même temps, il faut que le produit, le truc que tu crées, quoi, il faut que les gens, ils aient envie de revenir, quoi. Si c'est qu'ils viennent t'écouter 30 minutes et puis après, ils vont se pendre, bah, t'as un coût d'acquisition qui est énorme. et t'as pas un retour sur investissement, les gens reviennent pas, tu vois. Bon, je suis désolé pour l'utilisation de gros mots de marketing, mais si tu veux que le client soit récurrent, il faut pas qu'il se suicide à la fin de l'épisode. D'où l'intérêt de raconter des choses rigolotes qui lui donnent envie de revenir vivant, en plus. Voilà. Bon, alors, qui passe à la question? Gaëlle ou Perrine maintenant?
C'est marrant, je préfère vraiment être dans la position de l'intervieweur.
Ben oui, c'est pour ça que j'ai été scotché quand tu m'as posé la question. Ah bon? Mais bon.
Ok, voilà, allez, j'y vais.
Perrine, comment est-ce que tu es arrivée à faire un podcast?
Eh bien, écoute, en 2019, j'ai totalement remis en question mon job, ma vie. Je commençais à me poser beaucoup de questions et à m'intéresser aussi au changement climatique. Et puis, je me demandais comment je pouvais contribuer, sachant que moi, je ne suis pas du tout issue de la tech, hein, je suis issue d'une école de commerce. Donc, comment je pouvais contribuer à ma façon à rendre le sujet un peu plus vulgarisé, en fait, auprès du grand public, parce que j'avais l'impression que le grand public ne connaissait absolument rien aux impacts du numérique. Et je parle au passé, mais en fait, je devrais peut-être continuer à parler au présent, malheureusement. Du coup, je me suis dit, bah, ça pourrait être sympa de créer un format du contenu à destination du grand public pour vulgariser le sujet des impacts, mais pour autant le rendre quand même assez joyeux, donc un peu comme toi Tristan, rendre un peu les choses positives, donc en présentant des initiatives pour contrer voire réduire les impacts. Voilà comment l'idée m'est venue. Dans Déclic Responsable, on parle des impacts environnementaux, mais on parle aussi beaucoup des impacts sociaux, mais aussi des impacts éthiques, sanitaires du numérique, avec cet angle positif. Et en fait, voilà, toute l'histoire a démarré en 2019 quand j'ai intégré GreenIT et que je me suis rendu compte que le numérique était une ressource fantastique, mais malheureusement épuisable. Voilà, c'est né de cette réflexion. Comment est-ce que moi, en tant que communicante, je peux contribuer à sensibiliser le grand public à ce sujet? Je reste dans ma position, dans ma posture de communicante avec ce format podcast. Et pourquoi le format podcast? Parce que ça changeait un peu des blogs ou des newsletters, que c'est un format qui est sympa à consulter. C'est un format qui est léger, finalement. En termes de contenu, on n'est pas sur de la vidéo. Donc voilà, voilà l'histoire de Déclic Responsable.
Allez, du coup, on va poser la question à Gaëlle.
Ah ben moi, pour reprendre un peu l'excellent article écrit par Tristan sur l'Ikigai, c'est exactement la démarche que j'ai eue il y a 2 ans. J'ai passé l'essentiel de ma vie professionnelle dans la tech, dans l'IT. Et je finissais... une période assez excitante, hein, soyons honnêtes. J'ai couru un peu à droite à gauche pendant 5 ans dans mon dernier job avec une très grosse transformation tech. Et j'avais aussi le projet de me relocaliser à La Réunion puisque c'est là que ma compagne et ma fille habitent. Et je suis vraiment arrivé à un moment où c'est peut-être le moment de se poser les bonnes questions. Et donc, j'ai ressorti l'Ikigai que j'avais essayé 2 fois avant dans ma vie, mais ça m'avait pas utile. C'était un outil qui m'avait pas été plus utile que ça à ce moment-là. Et là, le fait de me poser les 4 questions, qu'est-ce que t'aimes faire? Est-ce que tu peux gagner ta vie dessus? Est-ce que c'est utile? Est-ce que t'es bon pour le faire? Je suis assez rapidement arrivé à la conclusion que ce que j'aime, c'est les sujets environnementaux. J'avais toujours été plutôt... conscientisé sur le plan environnemental, mais comme beaucoup, beaucoup de gens, j'étais complètement à la ramasse sur l'ampleur des changements, le changement climatique, etc. Oui, bon, ouais. Recycler, quoi. Mais j'ai énormément pris l'avion dans ma vie professionnelle, ce genre de trucs, etc. Et ça me posait pas plus de problèmes que ça. Donc voilà, donc il y a eu un moment de dire, là, on est en train de changer d'échelle. Moi, j'ai en tout cas changé de compréhension du problème et j'aime bien la tech, j'aime bien l'IT, qu'est-ce que j'aime faire, c'est ça. Et puis du coup je me suis dit dans quoi est-ce que tu t'investis? Et pour la première fois je dis ok, je vais me lancer à mon compte en freelance et je vais vraiment travailler sur les sujets de numérique responsable. Donc j'ai, comme Tristan décrivait tout à l'heure et comme tu décrivais, il y a un moment on prend les bouquins, on regarde ce qui s'est fait et j'ai découvert l'incroyable richesse de l'écosystème français. Après moi, comme j'ai plutôt une culture internationale de par mon parcours professionnel, je suis aussi allé voir au-delà des frontières et j'ai découvert la grande pauvreté dans la majorité des pays sur ces sujets-là. Il y a quelques pays où c'est un peu plus dynamique en ce moment, mais et c'est là que je me suis dit il y a quelque chose à faire, mais plutôt sous un angle international, donc le choix de la langue anglaise, et plutôt porter un peu la voix de tous ces travaux qui ont été faits par ces précurseurs et toutes ces associations. On peut penser à Green IT, on peut penser à Boa Vista, etc. Et j'en oublie et j'en suis désolé. Au niveau international, mais dans un angle échange, dialogue. Donc j'avais envie qu'il y ait que ça soit pas juste des Français qui parlent en anglais, mais bien des échanges entre personnes françaises, anglaises, taïwanaises, singapourienne, etc., etc. Et donc j'ai créé le podcast et le format podcast m'a semblé assez naturel parce que écrire en anglais ça prend quand même plus de temps qu'écrire en français, puis surtout les interviews c'est très compliqué à rendre à l'écrit et je voyais pas trop l'intérêt de faire de la vidéo en fait, c'était un peu contradictoire avec le message. Ça me semblait plus accessible de faire un podcast et c'était un média un peu plus authentique, il y a moins de fioritures. Ça permettait d'avoir des dialogues francs avec les personnes invitées. Voilà. Et c'est comme ça que je me suis bien amusé et que je continue à bien amuser, que je m'ai bien amusé pour le lancement et que je continue à bien m'amuser à faire Green.io 1 à 2 fois par mois.
Trop bien. Bon, c'est des chouettes histoires tout ça. Bravo Gaël de te coller à l'anglais. J'aurais pas été capable de le faire, mais bravo.
Bon, mais j'ai de la chance. Il a de la pratique. Hein.
Voilà.
Oui. C'est ça. Bon, et puis je commençais à poser la question à Tristan tout à l'heure de ses vacances. Est-ce qu'on parlerait pas un peu de choses un peu plus légères et hors numérique? Ce serait cool, non?
donc tu me poses la question, c'est ça?
J'aimerais bien savoir où tu vas. En vélo, en plus.
Voilà. moi, j'ai décidé d'arrêter de prendre l'avion en vacances, pour aller partir en vacances. En 2019, j'étais aux Seychelles avec des copains qui nous avaient offert le billet d'avion à ma femme et moi, parce qu'ils travaillent dans une grande compagnie aérienne nationale, dont je tairai le nom. Et là, je leur ai dit, écoutez, c'est juste plus possible de partir tous les ans au soleil, comme on le fait tous les 4. J'apprécie beaucoup que vous me fassiez bénéficier de ces billets vraiment pas chers, mais là c'est fini, c'est la dernière fois, et donc les billets pour Cuba, qui est la prochaine destination, vous pouvez les faire rembourser parce que on n'ira pas, quoi. Parce que vraiment, je me sentais sale. C'est magnifique les Seychelles, hein, mais je me sentais sale de prendre l'avion. Donc, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on part plus en vacances, quoi? Alors, on s'est dit, on va faire des vacances à vélo. Et en fait, on a deux formats de vacances. Soit on part une dizaine de jours avec nos vélos du quotidien. On met une paire de sacoches derrière. On réserve un TGV avec des billets spéciaux où t'as de la place pour mettre ton vélo sans le démonter. Il faut prendre les billets pas mal à l'avance, mais bon, tu trouves ça. On trace une ligne le long d'une voie verte, donc un endroit où c'est où il n'y a pas de voiture, quoi. Il y a comme ça un certain nombre d'itinéraires. Une année, on avait fait Quimper-Laval, hein, ça fait quasiment 500 kilomètres, avec quasiment zéro route, quoi. Juste de la voie verte réservée au vélo. Et cette année, voilà, on va faire Angers, la côte normande, par les voies vertes à vélo. L'autre format qu'on utilise, c'est le fait d'avoir des vélos pliants qu'on met dans le train, dans le TGV. Et là, on se fait des week-ends bas carbone avec ma femme. Donc, on part dans une destination sympa. Peut-être Bordeaux, Nantes, La Rochelle, Grenoble, Lyon. Enfin bon, un endroit où tu vas en TGV. Et puis, sur place, tu déplies ton vélo et tu vas te balader pendant le week-end, si possible un week-end prolongé, quoi. Et puis après, tu replies ton vélo et tu le remets dans le TGV et tu repars, quoi. Ça, c'est les deux formats de vacances, soit longues, une dizaine de jours, soit courtes, genre 3 jours, toujours à vélo et donc très bas carbone.
Et toi, Gaël, qu'est-ce que tu vas faire cet été?
Ah bah moi,
je travaille, moi, madame.
Compliqué, voilà, travailler plus pour gagner plus.
Putain, Sarkozy sort de ce corps.
Voilà, ce que tu comprends, il faut que je rachète une deuxième enceinte connectée pour la salle de bain. J'ai ça mal. Je pas très très bien quand je suis devant le lavabo, donc. Non, ben moi je rigole, mais en fait c'est un énorme problème pour moi. Parce que vivant à La Réunion, l'avion, c'est pas vraiment négociable. Et donc chaque année, on revient en vacances parce que les liens familiaux et amicaux sont quand même plus en Europe que sur La Réunion. Donc déjà de base, moi, mon bilan carbone, il est pourri. Et en plus, on bouge beaucoup parce qu'il faut aller voir la famille, les copains à droite à gauche et tout. Enfin, pour ceux qui ont vécu à l'étranger et qui savent ce que c'est que les vacances quand on rentre et qu'on veut voir tout le monde, etc. C'est jamais des vacances très reposantes, mais par contre, on est à fond train et on descend dans le sud, dans le Var, voir ma belle-mère. On essaie de se faire un petit saut en Italie. Alors là encore, on a essayé le train, mais la réalité, c'est que l'Europe du rail, c'est vraiment compliqué. Donc, on alterne et puis passer des moments en camping, des moments à aller voir les uns et les autres dans des villes qui, heureusement, elles sont bien connectées dans des gares TGV. Donc ça, on ne dira jamais à quel point on a eu la chance de fabriquer suffisamment de voies ferrées de qualité en France, même si on voudrait sûrement faire mieux. Voilà. Mais c'est vrai, quand tu disais, Tristan, je me sens sale. Moi, c'est un énorme dilemme qui ne peut pas vraiment être tranché aujourd'hui puisque il n'y a pas vraiment de projet, vu les contraintes professionnelles de ma compagne, de revenir en Europe et puis pas forcément l'envie non plus. Mais c'est un vrai sujet que j'ai shifté en fait. Je me suis vraiment beaucoup beaucoup posé la question et en fait, je suis tombé sur ce concept d'ombre climat. Une journaliste américaine qui avait écrit cet article et qui m'a un peu ouvert les yeux d'ailleurs sur le fait que l'empreinte carbone, les premiers à avoir parlé un peu d'empreinte carbone avant que le bilan carbone soit développé et institutionnalisé par Jean-Marc Jancovici en particulier, mais avant l'idée même, en fait, elle a été poussée par les pétroliers. Et elle a été poussée dans une stratégie de défense classique des relations publiques américaines qui est quand tu fais de la merde, fais en sorte d'accuser ton utilisateur de faire de la merde avec. Donc les champions en toute catégorie, c'est bien sûr la NRA hein, aux États-Unis. Avec les armes tuent, c'est parce que les gens s'en servent mal. Mais nous, fabriquer X millions d'armes par an, pas un souci, quoi. Hein, c'est notre droit constitutionnel.
Non, c'est ça. C'est pas les flingues qui tuent les gens, c'est les gens qui tuent les gens.
Voilà, exactement. Et en fait, BP a fait exactement la même chose peu de temps après la grande marée noire du Golfe du Mexique. Où il commençait à être beaucoup sous la pression. Non, mais c'est pas le pétrole qui est sale, c'est la manière dont les gens s'en servent. Regardez leur bilan carbone. Alors, je me dédouane pas
ou
du
Coca-Cola,
tout.
Coca-Cola, hein, plus grand producteur aussi, de plastique au monde, qui dit recyclé. Putain, les gens, mais jetez pas, recyclez.
On sait la réalité du recyclage plastique, ça fait doucement.
C'est une catastrophe, ouais, bien sûr.
Mais tout ça pour dire qu'il faut absolument pas se dédouaner. Il y a un vrai problème aujourd'hui sur les gens comme moi qui sont amenés à prendre l'avion. Qui pourrait faire le choix de ne pas le faire, mais avec des conséquences familiales assez radicales. Donc ça, c'est voilà, j'en suis pas fier, mais c'est vrai que j'ai creusé un peu plus la question de l'ombre climat. Et l'ombre climat, c'était intéressant ce qu'elle évoquait, c'est en fait, ok, c'est bien, une fois que t'as fait ton bilan carbone, qu'est-ce que tu fais de ta vie par rapport au climat? Où est-ce que t'as mis ton argent? Qu'est-ce que tu fais dans ton réseau pour faire avancer la question de la prise de conscience et de la lutte contre le réchauffement climatique? Et puis, qu'est-ce que tu fais dans ton job, quoi? Et c'est un peu aussi, on évoquait tout à l'heure le côté de l'ikigai. Moi, je pourrais pas aujourd'hui prendre l'avion si je savais pas qu'à chaque fois que je reviens en Europe, c'est pour donner des conférences, faire des ateliers. Et j'espère, à chaque fois, je dis un peu en rigolant, à chaque CTO ou CPO avec qui je bosse, putain, t'as intérêt l'année prochaine à faire les actions pour réduire d'au moins 2 tonnes. Hein. Alors, généralement, c'est plutôt des milliers de tonnes dont on parle, mais moi, je vais être payé en carbone. Hein. Je te préviens, hein, si
en pognon.
Voilà, c'est plus important pour moi, même avant de toucher mon chèque, que tu m'assures que c'est pas juste, tu m'as fait parler pour venir et t'acheter une bonne conscience et machin, quoi. C'est quoi que tu vas mettre en place? Voilà, mais c'est compliqué. Enfin, c'est un vrai dilemme. Enfin, je m'étends un petit peu sur le sujet,
c'est un vrai dilemme.
Je suis pas fier du truc,
simple,
mais voilà, bon, c'est.
C'est intéressant.
C'est, ouais. C'est sûr que pour moi, c'est plus facile que pour toi. Hein.
Et moi, c'est pareil. Je fais face à un dilemme qui est un peu différent, Gaël.
Ouais, vas-y.
C'est mon conjoint qui est pilote dans une grande compagnie aérienne nationale que je ne nommerai pas non plus.
On se demande qui c'est.
Donc on est face à un autre dilemme. Mais pour autant, cet été, on part en bateau à la voile. Voilà.
Ah, c'est génial ça. Vous allez où?
Alors nous, on habite dans le Morbihan, donc on habite déjà dans un chouette coin. Mais là, cette année, on va monter plus vers le Finistère. On va essayer de faire les Glénans, et puis pourquoi pas de monter jusqu'à l'île de Sein. Ça va dépendre du vent, s'il est avec nous ou pas. On verra.
Au départ du Morbihan, alors.
Oui, au départ du Morbihan.
Ouais, génial.
Ouais.
Cette phrase, ça va dépendre du vent. Ah, c'est génial, cette phrase.
Bon, et quels sont vos projets là sur vos différents podcasts pour la rentrée? Parce que j'imagine que vous allez faire un break cet été.
Mais écoute, j'en sais rien. C'est vraiment la question vacharde. Tu sais, ça fait donc 3 saisons. La saison 2 s'est arrêtée quand je suis rentré chez Scaleway parce que j'avais vraiment beaucoup de boulot chez Scaleway et ils ont été assez clairs en me disant soit tu fais un truc en anglais et c'est pour Scaleway, soit tu le fais un podcast en français, mais ça tu te démerdes, c'était loisir, on veut pas le savoir. Et puis bon, j'avais quand même vraiment beaucoup de boulot. Et du coup, de fait, j'avais fait une pause sur l'Octet Vert. Et puis, dès que j'ai su que le poste était supprimé, parce que le changement climatique n'a pas l'air très très important au sein du groupe Free Iliad, je me suis dit, je vais réactiver au plus vite l'Octet Vert. Et du coup, j'ai repris l'ancien format des saisons 1 et 2, alors que je sentais que j'avais envie de changer de format. Mais disons que j'avais pas eu le temps de résoudre ce problème du changement de format. Donc j'ai repris tel quel et donc je me suis fait une 3e saison avec le même format. Et du coup, je me repose des questions alors que on arrive en fin de saison 3. Je vais normalement faire une saison 4 si tout se passe bien. C'est quoi le format? Parce que là, ça fait 3 ans que je pose littéralement les mêmes questions à des personnes différentes, mais je commence à sentir depuis une saison que je tourne un petit peu en rond et j'ai envie de trouver des choses. Donc voilà. Si les auditeurs ont des idées, il faut pas hésiter à m'écrire tristan@nito.com. Allez-y, lâchez vos coms, comme on disait du temps des Skyblogs qui viennent de s'arrêter. Voilà.
Ça s'appelle de la co-création, c'est trop bien.
Voilà. Exactement.
Et toi, Gaël, tes projets pour Greenio?
Il y en a, je dirais, il y a deux. D'abord, continuer. Il y en a deux, clarifier. Clarifier, en fait, expliquer mieux à mon audience que c'est OK de pas écouter tous les épisodes. Parce qu'en fait, comme je couvre finalement un sujet qui est vaste, parce qu'on le prend sous un angle, parfois il y a des épisodes qui sont plus autour du design, d'autres qui sont plus autour du code, d'autres qui sont plus autour de l'hébergement, et puis il y a plein d'épisodes qui sont plus autour de ce que j'appelle ouvrir les chakras, hein, c'est-à-dire, ok, quand on parle des déchets électroniques en tant que tel, ça concerne un peu tout le monde, et c'est de la culture générale de la sustainability dans la tech, quoi. Et je veux clarifier le fait que c'est ok, c'est pas un podcast qu'on écoute à chaque fois qu'il sort religieusement, etc. Et je pense que j'ai pas été très clair avec l'audience, parce qu'il y a des gens qui reviennent vraiment en disant « Ah, c'est cool, mais celui-là, j'ai pas pu l'écouter d'épisode, etc. » Mais c'est normal, tu es designer, tu t'es régalé des 3 épisodes sur Sustainable Design, il y a peut-être celui-là, celui qui t'intéresse, mais après, sur un truc qui est à fond sur du cloud, bon, voilà. Donc, comme tu disais un peu Tristan, moi, je pose pas tout le temps les mêmes questions, mais après, il y a des sujets qui reviennent en boucle, et c'est bien qu'ils reviennent en boucle, parce que ce que je cherche, c'est la diversité d'opinion, la diversité aussi d'expérience, et sortir aussi parfois de plus en plus de juste parler de, on va dire, l'Occident, quoi. Donc ça, c'est très compliqué. parce que c'est pas des sujets forcément qui sont porteurs en Inde ou en Afrique, par exemple, même s'ils cherchent des invités, donc c'est un autre axe. Donc voilà, de clarifier les trucs, de dire bon, c'est normal, c'est cool. Et donc, parce que c'est normal, mais que les gens ont quand même envie de garder un coup d'œil, je vais essayer de basculer un peu plus sur l'écrit. Je vais lancer une newsletter mensuelle, dont le principal job...
C'est un scoop ?
Eh ouais, c'est un scoop.
Truc de malade, quoi. Attends. Tu vois, nous, on faisait un truc détendu au bord d'une piscine. Bon, en vrai, je suis dans mon bureau. Et là, bim, le scoop direct, là, sans prévenir.
Ah ouais, ouais, c'est le scoop. Mensuel, parce que j'ai pas envie de faire du bruit pour faire du bruit. J'ai envie de mettre du contenu un peu sympa pour que les personnes puissent dire, OK, bah, j'ai pas pu écouter l'épisode. J'ai pas envie d'écouter l'épisode, mais j'ai quand même envie de garder un œil et avec un petit résumé, genre 3000 signes, etc., qui dit, ah bah, OK, c'est cool. Même si je suis un designer ou une designeuse, j'ai quand même envie de voir ce qui s'est écrit sur le green coding avec Arne et Anne, par exemple, le dernier épisode qui est sorti, mais sans passer 45 minutes à écouter l'épisode. Ça, c'est le premier truc. Et le deuxième, c'est je vais essayer de m'aventurer dans un métier qui n'est pas le mien, qui est celui de la vente et du marketing, parce que on se bat vraiment pas à armes égales avec le reste des personnes qui créent du contenu à orientation essentiellement business hors impact, hein. Et je pense que il faut qu'on s'arme un peu plus. Moi, je rencontre encore des gens avec qui j'ai bossé, avec qui j'ai même échangé sur LinkedIn récemment, et qui me disent « Ah, bah, j'ai pas du tout vu tes derniers épisodes », parce que en fait, les algorithmes LinkedIn, parce que c'est là où je suis le plus actif comme plateforme, mais c'est valable pour tous les autres, bah, en fait, sont pas du tout taillés pour aller en fonction des intérêts des gens. Enfin, on va pas enfoncer des portes ouvertes. Donc ça, c'est mon deuxième grande bataille, c'est de, ouais, d'essayer d'augmenter l'audience auprès de gens que, bah voilà, si t'as sustainability dans ton titre et que t'es basé aux États-Unis, bah c'est pas grave, je vais aller essayer de te chercher et de te convaincre, voilà, que c'est un média intéressant. Peut-être même de faire un peu de pub au sens dans des trucs qui tiennent la route, hein, des newsletters tech, etc. Bon, je vais essayer en fait de, mais j'y arriverai peut-être pas. Hein, on en discute dans 6 mois, mais je vais essayer d'aller au-delà de l'audience des gens qui sont déjà plutôt convaincus sur ces sujets, qui apprécient d'écouter le podcast parce que ça les renforce leur argument, parce que ça leur donne d'autres idées, parce que c'est inspirant, mais pour lequel je suis pas un déclic, pour reprendre ton terme. Périne, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et d'ailleurs, toi, c'est quoi les projets pour Déclic Responsable?
Alors, les projets pour Déclic Responsable, déjà, 2023 a été un peu l'année du changement, parce que donc, j'ai été rejoint par Tiffen en début d'année, ce que je disais tout à l'heure.
Ouais, ouais.
Qui a un peu revu, justement, le format où avant on était sur un format pure interview. Et là, elle vient apporter des petits interludes. On a sorti des petits épisodes fiction. Voilà. On essaye de diversifier un peu les formats depuis quelques mois. Donc, on va continuer à le faire. On est sur un projet de Focus, qui est l'inclusion numérique, un projet en partenariat avec une autre asso. Donc ça, c'est chouette, c'est une grande première et c'est un scoop d'ailleurs, ça aussi.
Bim ! Ok, il n'y avait pas de scoop alors.
Voilà, okay. Voilà, c'est piscine scoop aujourd'hui.
Mais vous en saurez plus à la rentrée. Et puis, on aimerait bien aussi ouvrir un peu les horizons du podcast en ouvrant à d'autres pays que la France, parce que jusque-là, on a beaucoup présenté des initiatives par des Français. Et l'idée, ça va être d'aller voir. Alors, on va rester sur un podcast en français, hein. Je te rassure, Gaëlle, on va pas venir sur ton terrain en anglais. Mais par contre, l'idée, ça va être de présenter des initiatives qui se font dans d'autres pays et qui peuvent être inspirantes pour nous aussi. Voilà,
mais
voilà
un peu les. Tu es super bienvenue sur mon terrain. On a besoin de beaucoup plus de podcasts en anglais sur beaucoup plus de sujets environnementaux et en particulier de Green IT ou de numérique responsable.
Ouais, ouais, ouais. Non, mais ça pourrait être un autre projet. Mais alors, dans ces cas-là, il faudrait que je me dédouble, que j'ai 10 bras et. Mais ça serait top. J'aimerais beaucoup. Ouais. Un petit mot de la fin, peut-être. Dernière question que je pose à chacun de mes invités, c'est leur vision de l'avenir du numérique. J'aimerais bien connaître votre vision.
Moi, je viens de sortir un article sur la loi de Moore, donc je vais répondre légèrement à côté. En fait, j'ai plus un souhait qu'une vision, ou peut-être c'est une approche volontariste. Moi, j'ai envie qu'on arrête la loi de Moore. Alors, quand tu dis ça à un informaticien qui a toujours vécu dans la loi de Moore, qui fait qu'on change de matos hyper régulièrement et qu'on a toujours des nouvelles bécanes super puissantes avec des smartphones totalement incroyables, tu vois, tous les 2 ans, littéralement tous les 2 ans, chez Apple, t'as un bon technologique et puis une année sur deux, ils accélèrent l'édition de l'année d'avant, quoi. Là, il faudrait que ça s'arrête, quoi. Alors, ce qui peut paraître monstrueux et ce qui serait effectivement probablement une mauvaise nouvelle pour les gens qui fabriquent du matériel, ça serait une super bonne nouvelle pour tout le monde, à part cette industrie du matériel, parce qu'on pourrait faire durer le matériel hyper, hyper longtemps. Il faudrait juste rendre nos smartphones réparables ou nos ordinateurs réparables. Et puis, tout le temps qu'on a mis à faire des nouvelles fonctionnalités côté logiciel, eh bien, on pourrait prendre cette énergie pour optimiser les logiciels existants. Et en fait, je pense qu'on a un réservoir d'optimisation qui est phénoménal, parce que l'optimisation, on l'a délaissé au profit du rajout de nouvelles fonctionnalités, puisqu'on s'en foutait d'optimiser, puisque de toute façon, le matériel, il allait doubler de vitesse dans 2 ans. Et donc, on a ces réservoirs d'optimisation qui sont pas utilisés. Et je me dis qu'on pourrait inventer le principe de e-room, qui est donc le contraire de Moore, enfin l'inverse, inversé quoi, qui est un effort massivement, je sais plus quoi, d'optimisation, enfin bon, un effort radical d'optimisation en masse quoi, et que cet effort radical d'optimisation en masse, il permettrait, comme la loi de Moore, de réduire la vitesse d'exécution des logiciels d'un facteur 2 tous les 2 ans. Donc en fait, c'est comme si la loi de Moore continuait, puisque tu aurais des logiciels 2 fois plus efficaces tous les 2 ans, mais tu changerais pas le matériel. Et comme la fabrication des terminaux en France est de l'ordre de 3/4 de l'impact carbone du numérique, bah en fait, tu arriverais à genre continuer la loi de Moore juste par des efforts d'optimisation. Tu aurais de la puissance disponible tout le temps, tous les 2 ans, encore plus de puissance disponible, mais juste sans changer le matériel. Et ça, tu vois, c'est le truc qui m'excite en ce moment, dont je parle sur le blog d'Octo et sur LinkedIn, et etc. Et franchement, ça me fait bien kiffer. Donc, si ça pouvait être une vision partagée, j'adorerais.
Très bien. Super. Ben, Vincent, pressé de lire l'article et de liker le post, surtout, pour le rendre encore plus visible.
Oui, auprès des algorithmes.
C'est ça, qu'on adore.
Ah oui, je t'aime, LinkedIn. C'est... J'aime tes algorithmes de merde. Pardon, excuse-moi, j'ai ripé.
Et toi, Gaël, alors, c'est quoi ta vision de l'avenir du
numérique? Ouais, la vision, c'est une bonne question. Ouais, je voudrais juste t'amener un petit complément à ce que Tristan a dit, et je souscris grandement sur l'impact du matériel et tout. C'est que, fun fact, moi j'ai commencé ma vie professionnelle dans les terminaux de paiement électronique, hein, parce que c'était j'étais chef de projet sur différents sujets. Et en fait, il y a 20 ans de ça, il y avait déjà des boîtes qui sont connues pour être des repères anarcho-communisto-environnementalistes qui s'appellent les banques, ouais. Et qui effectivement sont toujours à la pointe du changement, des business models à impact, etc. Et qui avaient déjà des business models extrêmement rentables autour de la location, parce que la plupart des commerçants savent en France et en Europe qu'en fait les terminaux sont loués sur des contrats longue durée. Et en fait, je vous rassure, les fabricants de terminaux vivaient très bien, hein, Génico entre autres, qui est un des leaders français. Donc en fait, l'idée, moi, qu'un matériel dure le plus longtemps possible et que tu sois très aligné entre le loueur et la personne qui l'utilise, parce que ce que tu as envie, bah, c'est d'envoyer le moins possible un technicien sur site, et la personne, ce qu'elle a envie, c'est que ça marche le mieux possible. C'est quelque chose, en fait, qui est dans ma vie professionnelle depuis plus de 20 ans, et avec, je le disais en rigolant tout à l'heure, mais avec une logique qui est même le monde d'aujourd'hui, quoi. C'est même pas le monde d'après, avec des, moi, qui est un peu ma marotte, hein, ouais. Des business à impact, la triple bottom line, c'est-à-dire que tu fais pas simplement que le finance et la prosperity, mais tu prends en compte people and planet aussi. Non, c'est vraiment là, déjà un truc de base, qui est là pour faire cracher du fric à la fin de l'année. Bah, t'as quand même des business models autour du fait que ton matos, tu le vends pas et que tu cherches pas à accélérer l'obsolescence matérielle.
Et tu le loues, et c'est très lucratif, et ça dure très longtemps. C'est fiable.
C'est vrai exactement. Que c'est un truc que, quand je fais des fresques du numérique, hein, parce que c'est aussi mon autre gros investissement, c'est vrai que c'est souvent un exemple qu'on prend après, lors de la phase action. Je dis, ah, c'est compliqué, mais je me rappelle, non, il y a déjà des modèles d'affaires qui fonctionnent comme ça, quoi. Désolé pour l'anglicisme, oui, du business model, il m'a échappé. Ouais. Moi, ce que je constate aujourd'hui, ça va être hyper bateau de dire ça, mais c'est un peu le verre à moitié vide ou à moitié plein, c'est-à-dire, moi, je vois une accélération très, très forte, au moins à l'échelle européenne, mais pas que, dans pas mal de pays, de la prise de conscience des impacts environnementaux du numérique. Donc ça, c'est quand on regarde et qu'on est sur une belle courbe exponentielle et on regarde, waouh, ça monte très très vite. Et après, quand tu dézoomes, tu dis, ouais, mais on part de très très bas. C'est-à-dire, on est encore sur un discours archi-dominant, enfin dominant en Europe, archi-dominant aux États-Unis et ultra archi-dominant en Asie, de la tech nous sauvera sans aucune question. Alors moi, je continue à penser qu'elle apporte plein de bonnes choses. D'ailleurs, je vais faire un épisode, là, j'enregistre un épisode tout à l'heure. Donc, je suis à fond podcast aujourd'hui sur la data for good parce que je voulais avoir de la part de gens qui soucient de faire des algos et d'utiliser de la data pour avoir des impacts extrêmement positifs. Voilà, je voulais avoir un épisode là-dessus tout en sachant qu'ils mesurent leur empreinte carbone et qu'ils font attention à pas faire n'importe quoi. Donc, je reste convaincu qu'il y a vraiment des très belles choses à faire dans le secteur du numérique. Mais l'intégration simplement dans un ratio coût-bénéfice de base, hein, sur le plan environnemental, c'est encore une terre de mission, on va dire, dans le monde. Et je sais pas, en fait, quand je suis optimiste, je vois simplement une courbe exponentielle, et on sait très bien, tout le monde sait très bien depuis le Covid, qu'une courbe exponentielle, ça va très très vite. Donc on peut se dire, waouh, cool, dans 2-3 ans, il y aura une majorité de la population qui aura compris qu'il faut sortir de renouvellement de smartphone tous les 1 an parce que ça fait fun, et de comprendre que le cloud, c'est pas un truc... Et quand j'ai un petit coup de mou, etc., je vois surtout que ça reste très circonscrit à une poignée de pays et au sein de pays à une poignée de catégories de population. Voilà, donc à voir.
Ouais, tu sais, je crois que c'est Victor Hugo qui disait « Rien n'est plus puissant qu'une idée dont l'heure est venue ». Est-ce que c'est Margaret Mead aussi, je sais plus, qui disait « Ne doutez pas qu'une poignée de personnes peut changer le monde », c'est toujours comme ça que ça a fonctionné. Il y a de ça aussi, quoi, tu vois. Je pense qu'on n'a pas besoin d'être... on est certainement en avance de phase, mais il n'y a pas besoin qu'on ait converti tout le monde pour que le changement arrive.
Non, mais tu luttes contre une autre idée qui est un fétichisme quasi religieux de la technologie. Et encore une fois, que j'adore, et moi-même, j'ai fan de science-fiction et tout. Et j'ai du mal, moi, à m'affranchir. J'apprécie toujours de lire un bon bouquin de science-fiction ou de regarder un film de SF. Là, il y a Dune qui est sorti, je me régale. Et pourtant, je peux pas m'empêcher de dire que ça a participé à une narration qui est, de toute façon, dans quelques années ou dans quelques centaines d'années, on aura un progrès technologique absolu, total, qui résoudra tout, etc. Et je pense qu'on a encore beaucoup de choses à inventer. Mais aujourd'hui, ce discours sans contre-mesure, quand il bascule de la science et du débat d'idées à de la religion, il est vraiment très problématique. Et aujourd'hui, ouais, c'est un fait quasi religieux. Enfin, quand tu discutes avec des gens, je sais pas moi, à Dubaï, par exemple... Pour reprendre quelqu'un avec qui j'ai échangé récemment, c'est t'inquiète, Gaël, t'inquiète, là. Les solutions vont arriver, on va décarboniser à vitesse grand V, on recyclera ça, on va mettre des usines de désalinisation d'eau de mer, etc. Et toute la pensée systémique aujourd'hui, elle est au point mort,
ouais,
quoi.
Ouais, je suis d'accord avec toi.
Mais ça avance vite.
Mais c'est pour ça que je fais avec un truc qui s'appelle Frugarilla au sein d'Octo, des soirées utopies où on réfléchit comment les utopies permettent de diffuser un nouvel imaginaire désirable, des futurs désirables, pour que les gens aillent là-dedans, mais à la fois frugal et désirable, tu vois. Et il y a du taf, hein. C'est pour ça que je voulais écrire un roman et que je l'ai pas encore fait, j'y arrive pas. Mais je désespère pas.
Et t'as un super atelier, je pense que la plupart des auditrices et des auditeurs vont connaître la fresque du climat, je pense, hein, Périne et Tristan, vous écoutent. Mais pensez aussi à la fresque des nouveaux récits. C'est un exercice qui est très différent, très intéressant.
Toujours pas fait.
Périne, tu l'as fait, toi, ou pas?
Non, moi non plus, je l'ai pas faite, mais oui, j'y pense.
Je me suis déjà inscrit, mais j'étais sur liste d'attente, donc.
Il n'y a pas de passe-droit.
Mais ça devait être très inspirant. Ouais. Et puis, moi, pour partager ma vision de l'avenir du numérique.
Vas-y. J'allais te poser la question.
On allait, oui, mais t'as raison de prendre la main. T'as pas à la demander. Voilà, tu prends la main. Zut, le micro.
Non, je suis un peu comme vous, avec ces ambivalences, avec la réalité qui est que probablement que là, on s'adresse à des gens qui sont bien avertis et qui sont déjà concernés par les sujets et qui ont déjà entrepris des choses dans leur vie pour réduire leur impact. Mais malheureusement, c'est probablement une poignée de personnes. Mais bon, je m'accroche quand même à l'espoir qu'on peut faire bouger les lignes. Et j'ai bien aimé la citation de Victor Hugo, Tristan, qui est assez inspirante et qui résume bien les choses. Et c'est d'ailleurs pour ça que, je pense, tous les trois, on continue à animer nos podcasts. C'est que si on n'avait plus d'espoir, on arrêterait totalement. Donc non, j'ai bon espoir que la vision utopique que tu as, Tristan, du numérique, en tout cas ton souhait, se réalise un jour. Quand on sera plus nombreux à avoir ouvert les yeux. Voilà.
Excellent. Alléluia. Ouais, ça ressemble bigrement à un mot de la fin, on dirait.
Ouais, c'est pas mal comme mot de la fin.
Non, mais Périne, tu devrais faire des podcasts.
J'y pense.
Sur une connerie. Bon. Merci à vous deux, à moins que vraiment vous ayez une urgence à dire quelque chose, une déclaration, un énième scoop. mais je crois qu'on peut s'arrêter là.
Ouais, sinon, pas d'autre scoop.
Top sur cet épisode totalement à l'arrache, improvisé quelques dizaines de minutes. Ce matin, on devait faire un épisode en anglais et on se dit, si on en faisait en français, ok. Et c'est parti. Et bien, je trouve qu'avec le recul, c'est pas mal réussi.
Ouais,
merci beaucoup à vous deux.
Merci beaucoup à tous les deux. Bonne journée, à bientôt.
Bonne journée. Ciao, ciao.